pour reconnecter Martine.
Hey, comment ça va?
À Karim.
Super, pour vrai, ça fait longtemps.
Et Karim, à la bibliothèque.
Oups, excusez.
Il y a la STM. La meilleure façon de se reconnecter.
Bienvenue à Escale 17-18 avec Fulgence Plat au micro, Nicolas Fadman à la technique. Oui, c'est mercredi, donc on va parler du sport aujourd'hui avec Myriam Lard. Non, c'est jeudi, pardon. C'est jeudi, c'est pas mercredi. Mercredi, on parle de plein air et de, voilà, et de loisirs. Mais jeudi, on parle de sport avec Myriam Lard qui va nous parler du tournoi d'Indian Wells, la retraite de Barty à 25 ans. Ouais, et puis soccer, foot. Qualification pour le Mondial 2022, candidature pour l'Euro 2028. Et en deuxième partie d'émission, je vais recevoir Monique Ormier, qui est professeure titulaire du département de linguistique et de traduction à l'Université de Montréal et l'instigatrice du concours d'éloquence d'Elite Langue. C'est la finale, la grande finale, le lundi 28 mars à 16h. Finale du concours d'éloquence d'Elite Langue, 4e édition. Restez à l'écoute, vous allez apprendre davantage là-dessus. On part en musique tout de suite avec Gregory Isaac, Hard Drugs.
They steal my more. The more them get it, and the more them want it. Lord, no. Some will even try to take his brother's life, yeah. Just to achieve a bit. Talking about hard drugs, oh yeah. Gonna let the love to them search the floor. Talking about hard drugs. The more they get it, they steal one more. The pusher was away upon his ups and down. And men are like junkies all over town. Seen the first man who tried to dine. Surely gonna put him down. Talking about hard drugs, oh yeah. Gonna let the rest of them search the floor. More and more. Talking about hard drugs. The more they get it, they steal more, more. They steal more, more. Lord, no. Now the pressure was away upon his ups and down. And men are like junkies all over town. Lord, no. Seen the freshman who signed the dime. Surely gonna put him down. Down, down. Talking about hard drugs. Gonna let the lift of them set the floor. More and more. Talking about hard drugs. The more they get it, they steal more. Talking about it, the more them get it, the more them want it. Talking about hard drugs, oh yeah. Gonna let the lift of them set the floor. Mm-hmm. Talking about hard drugs, the more they get it, they steal one more. They steal one more. More, more, more. The more them get it, the more them want it.
talking about it.
You morning Getty, Gregory Isaac Hard Drugs. Oui, comme je disais quand je plantais le décor voilà, de l'émission, Myriam est avec nous aujourd'hui, c'est jeudi bien sûr. Voilà, elle va nous parler un peu de tout quoi, du tournoi d'Indian Wells, la retraite de Barty à 25 ans, la jeune australienne, soccer, foot, qualification pour le mondial 2022 et puis les candidatures pour l'Euro 2028. Bonjour Myriam Larache.
Bon après-midi à tous et à Fulgence et à toute notre équipe qui participe. Ça va bien ?
Oui, et oui, merci beaucoup.
Alors, tu as planté le décor un mercredi, toi.
Voilà.
Un peu en avance.
J'ai pas envie de reculer, je vais avancer.
Bon, Fulgence, tu veux gagner des jours. Tu penses que t'es encore mercredi, toi ?
Ouais, non, c'est jeudi aujourd'hui, c'est pas mercredi. Voilà. C'est ça la magie du direct.
Oui, absolument. Alors, on a une émission un peu spéciale parce qu'on va surtout axer sur le tennis et le soccer.
Oui.
Le soccer, pourquoi ? Écoute, Fulgence, c'est les 4 jours les plus importants pour plusieurs pays pour se qualifier au mondial, n'est-ce pas ? Alors, on va y revenir tout à l'heure. Commençons par le tennis. Un petit retour sur les conséquences de la fin du tournoi d'Indian Wells sur le classement mondial.
Oui.
Car après le départ donc, du russe Daniil Medvedev, que je vous avais dit la semaine dernière au troisième tour, et la première défaite de Rafael Nadal en 2022,
oui.
Et ben les rangs ont changé au classement mondial de l'ATP. Novak redevient numéro 1, suivi de Medvedev et Rafael Nadal est de retour au top 3, ce qui est quand même quelque chose. Il ne faut pas oublier qu'il a déjà annoncé hier qu'il est blessé,
oui.
Et qu'il a annoncé une absence de au moins 4 à 6 semaines. Alors il a dit qu'il sent des petites piqûres dans le cœur, qu'il a encore mal aux genoux, qu'il souffre beaucoup. Beaucoup. Alors, donc, il est absente, là, pour un bout, il faut l'oublier.
Oui, je pense qu'il va avec la retraite comme Federer.
Exactement.
Même si ce n'est pas encore dit officiellement.
Exact.
Oh, ouais.
Il ne peut plus, en tout cas, tenir un rythme effréné comme ça, hein, faire
non.
Melbourne, faire en plus le Grand Chelem, arriver ici, gagner, puis à un moment donné, ben, ça marche. Alors, on parle de Taylor Fritz.
C'est trop physique. Oui, c'est trop physique.
Exact, c'est lui qui l'a emporté. Hein. Mm-hmm. Le premier Américain qui a triomphé dans le désert californien depuis André Agassi en 2001. Donc ça fait 20 ans qu'un Américain n'avait pas gagné dans le désert californien.
Mm-hmm.
Et donc il passe lui à la 13e place, il grimpe beaucoup.
Oui.
Et le demi-finaliste Carlos Alcaraz, dont tu as mentionné cette semaine un peu le nom, le jeune de 18 ans qu'on dit déjà le futur Nadal. Eh ben, il grimpe, lui, au 16e rang. D'ailleurs, il lui a tenu tête en demi-finale. Je ne sais pas si tu as vu le match, mais c'était beau à voir.
J'ai vu le résumé, oui.
C'était haletant. Hein,
oui. C'est un Espagnol.
Alors,
aussi.
Oui. Mmh. Chez les Canadiens, Félix Auger-Aliassime se maintient au 9e rang, tandis que Denis Shapovalov glisse au 14e rang. Donc, par contre, vous savez, c'est le tournoi, le deuxième en prestige du Masters 1000 qui a commencé cette semaine, le Masters 1000 de Miami. Vous savez qu'il y a 9 Masters 1000 dans le monde. Il y en a un, donc celui qu'on a vu d'Indian Wells.
Oui.
Il y a celui de Miami. Il y a celui de chez nous, hein, à Montréal et Toronto.
Oui.
Monaco, Rome, Madrid, Shanghai. Alors, tout cela, c'est des grands tournois, car après, les grands chelems, c'est eux qui viennent en deuxième position. Et les joueurs, sont d'ailleurs, qui sont bien classés, sont obligés d'y participer, hein, Fulgent. Sinon, ils ont des points en moins, des conséquences. Alors, donc, chez les dames, ben, notre Québécoise Leila Fernandez, malheureusement, a été éliminée ce matin d'entrée de jeu après 2 manches contre la Tchèque Karolina Muková. Et hier, la Japonaise Naomi Osaka, qui est de retour au jeu à Miami, et qui a joué aujourd'hui aussi son deuxième match, et ben elle a gagné ses 2 premiers matchs, d'abord contre l'Australienne Astra Sharma, et ensuite contre la vétérante allemande Angelique Kerber. Elle vient de finir son match tout de suite, il n'y a même pas une demi-heure, contre Angelique Kerber en 2 matchs. On se rappellera sa défaite en larmes à Indian Wells, hein, où elle a fait une petite crise face à la Russe Kudermetova.
Mais sincèrement, je ne pensais pas qu'elle allait revenir d'ici
moi
tôt.
Non plus.
Hein.
Honnêtement, et puis elle est de bonne humeur, elle sourit, elle clame même sur les tribunes. Je suis comme à la maison ici, je me sens chez moi. Et elle a même dit à chaud, après son premier match, elle a fait allusion à sa crise la semaine dernière. Elle a dit « Je ne voulais pas me laisser ennuyer par quoi que ce soit aujourd'hui et je voulais prouver que je pouvais revenir et bien jouer ». Dans un match.
Ça, c'est ce qu'il faut. Il y a un travail sur soi-même et puis c'est parti, quoi.
Oui, elle doit travailler fort.
Ouais.
Moi, je pense qu'elle est jeune. Hein. Donc, elle doit avoir des moments où elle dit « Je suis prête, je vais y aller jouer. Je ne suis pas prête.
Bon, » Ouais.
On la laisse aller.
Il faut les comprendre quelque part.
Mm-hmm. Oui. Mm. Alors, chez les hommes, c'est l'entrée en jeu de Andy Murray ce soir pour ceux qui aiment le Britannique. et plusieurs autres qui entrent en jeu.
Andy Murray, quand est-ce qu'il va raccrocher, lui?
Lui, d'ailleurs, je ne sais pas, on dirait que lui, il est frustré de ne pas remonter au haut niveau. Hein. Il a vu les Federer de ce monde et les Nadal qui reviennent, même vieux. Alors, je ne sais pas, ça doit le travailler. Ça,
là, il faut qu'il arrête maintenant, là, lui aussi, à un moment donné. Et c'est comme la grande Serena. Serena, je ne pense pas qu'elle va revenir.
Oui, ce serait tôt. À part si elle cache son jeu et elle prépare un grand retour.
Peut-être oui, ouais, mais je pense que...
Alors on revient à la retraite dont tout le monde a parlé, même toi Fulgence, le numéro 1 mondial, personne n'a eu le choix que de l'évoquer. Oui. La numéro 1 mondiale Ashleigh Barty annonce sa retraite, et cela à 25 ans. Alors hier, l'athlète a surpris tout le monde avec une vidéo de 6 minutes sous forme d'entrevue qu'elle prend sa retraite. Elle dit même, en ces mots, je vous le dis, « C'est la première fois que je le dis à voix haute et c'est difficile, mais je suis tellement heureuse et prête. Je sais dans mon cœur que c'est le bon moment pour moi. » Alors, elle se dit sereine et reconnaissante de tout ce que le tennis lui a apporté. Elle termine quand même sa carrière avec 15 titres en simple, dont 3 grands chelems, 2019, 2021, 2022.
Oui.
Le dernier en date, d'ailleurs, parce que personne n'australienne, tu te rappelles, aucune australienne n'avait gagné ça depuis un bout. Elle l'a eu. Je pense que ça a clos ce qu'elle voulait atteindre, à mon avis.
Oui. Hein? Non, c'était le...
C'est sûr que ça a joué beaucoup, ça.
Ouais.
Alors, depuis 121 semaines, elle a été numéro 1 mondial, c'est incroyable. Et c'est le 7e règne parmi les plus longs de tous les temps chez les dames. Alors, la nouvelle a évidemment créé une onde de choc. Plusieurs joueurs, je vous en donne quelques-uns, notamment le Britannique Andy Murray, qui a dit quelque chose, pourquoi je le cite, de spécial. Il dit « Je suis heureux pour Ashleigh Barty, qui est certainement déçue par le tennis. Quelle joueuse !» J'ai pas compris cette phrase. Alors, est-ce que c'est sa façon, lui, de voir le tennis ou... Est-ce qu'il sait quelque chose qu'on ne sait pas?
Et peut-être qu'il sait quelque chose qu'on ne sait pas.
Voilà.
C'est compte tenu de l'intensité des programmes, peut-être c'est ça. Voilà.
Elle est jeune, Fulgence. Elle est jeune et en forme, en tout cas.
Oui, elle veut passer. Elle veut faire comprendre aux gens, au reste du monde, que en dehors du tennis, il y a autre chose dans la vie. Quoi.
Oui. Et d'ailleurs, c'est une joueuse qui est très spéciale. Hein. Tu sais que pendant la pandémie, elle a été une des rares à dire « Pendant la pandémie, je ne participe à aucun tournoi, je reste chez moi, en famille.
Oui. »
Elle a fait beaucoup de choix dans sa vie un peu atypiques qui sont propres à elle, à sa personnalité, à sa façon dont elle approche le tennis.
Elle est très famille.
Oui, famille, très proche. Il y a des priorités au-dessus du sport.
C'est ça. Malgré les millions qu'elle décroche là-bas, exact, mais c'est pas ça l'importance pour elle. L'important pour elle.
Voilà. Alors la Tchèque Kvitova lui a dit « Ah, je n'ai pas de mots, tu montres ta vraie classe en quittant le tennis d'une si belle façon. Le tennis ne sera jamais le même sans toi. » Et Alep, la grande roumaine Simona Alep, la vétérante, qui était la plus drôle, elle lui dit « Ah, que puis-je te dire? Tu sais que je verse des larmes, n'est-ce pas, mon ami? Tu vas me manquer. Tu étais différente et spéciale de nous autres. Nous avons partagé plusieurs moments incroyables. Vas-tu devenir maintenant championne en grand chelem au golf ?» Alors, c'est drôle. Elle lui donne déjà une voix, une solution à faire au
Ouais,
tour.
Peut-être qu'elles ont eu à parler. Elles ont déjà parlé de ça entre elles.
Ou bien
elles sont allées jouer au golf ensemble, c'est possible.
Et qu'elle doit être très bonne au golf pour lui dire ça.
Non, je ne pense pas qu'elle quitte le tennis pour autre sport professionnel.
Ouais, elle a déjà mentionné qu'elle voudrait être au fait coach de jeunes enfants. Hein,
là, je peux comprendre, mais pas aller se mettre en cause dans des circuits professionnels là encore. Là. Non,
ouais,
elle n'a plus ce mental. Ouais. Là, non, elle n'a plus ça.
Je pense qu'elle a atteint ses objectifs et elle veut passer à autre chose maintenant.
Oui.
Alors, par ailleurs, elle a tenu une conférence de presse aujourd'hui. Hein.
Ah.
Elle a tenu une conférence de presse aujourd'hui dans laquelle elle a notamment demandé à être retirée du classement de la WTA dès la fin du tournoi de Miami.
Oui.
Donc, par conséquent, il suffit à la fameuse polonaise Iga Świątek, qui est numéro 2 au monde maintenant, d'un seul match à Miami. Elle va jouer d'ailleurs ce soir ou demain, je pense. Et elle va prendre le pouvoir et être la numéro 1 mondiale.
Ouais.
Voilà pour le tennis.
Merci beaucoup, Myriam. On va maintenant au soccer, au foot.
Au foot qui est vraiment, c'est incroyable, Fulgence. Il faut être aux aguets depuis aujourd'hui jusqu'à dimanche, car la planète foot joue en ce moment sa place au Mondial du Qatar, ok?
Oui.
Alors,
il y a d'autres qui vont ouvrir la bouteille de champagne, il y a d'autres qui vont pleurer.
Exact, dans les jours à venir.
Ouais.
Alors, 17 équipes sont déjà qualifiées, juste pour que je vous fasse un petit schéma pour que les gens suivent. Alors, il reste encore 15 places à attribuer, c'est pas mal, presque la moitié. Hein. Alors, ce jeudi soir, d'abord, nous qui sommes concernés, le Canada joue sa première chance pour une première place au Mondial depuis 1986. Alors, il a 25 points, il est en tête devant les États-Unis. Donc, ce soir, il va jouer contre le Costa Rica à 22h05. J'espère que vous allez tous être devant votre télévision pour soutenir notre équipe canadienne. Il faut une victoire. S'il gagne ce soir son match, nous sommes qualifiés.
Myriam, une question, si tu peux le dire, c'est quelle chaîne qui diffuse en direct?
Ah, je n'ai aucune idée. Ça, par contre, parce que je suis allée voir sur RDS, donc les chaînes que la plupart du monde ont.
Oui.
Et il n'est pas programmé. C'est ça qui est étonnant.
Alors, ah, d'accord. Ok.
Il faut aller peut-être sur ESPN ou sur toutes les autres chaînes privées de
voilà,
sport.
Voilà, on va trouver. On voilà, va trouver ce qui est sûr. J'ai pas envie de rater ce match-là, en tout cas.
Non, il ne faut pas. Il ne faut pas. Mmh. Alors, il devra espérer. Donc, si jamais il ne gagne pas son match, je vous donne le scénario. Oui. S'il ne gagne pas son match ce soir, il fait un match nul.
Ton scénario besoin... avec les Sissi.
Les Sissi. Mais il faut d'abord... on va le laisser contrôler son destin et gagner son match ce soir.
C'est
okay
ça.
S'il gagne, voilà. On fait champagne.
Va avec le premier si, je t'écoute.
S'il y a un match nul, oui. Il aurait besoin d'une défaite ou d'un match nul du Panama contre le Honduras qui joue aussi
oui.
leur vie.
Oui.
Avec un match nul, il aurait besoin d'une victoire ou d'un match nul du Mexique contre les États-Unis, deuxième scénario.
Oui.
Si on veut qu'il passe, hein. S'il y a ces scénarios-là, il passe. Avec une défaite, s'il perd contre le Costa Rica, on croise les doigts que non. Alors, il aurait besoin d'une défaite ou d'un match du Panama contre le Honduras et d'une victoire du Mexique contre les États-Unis. Ça, Mexique contre les États-Unis, c'est faisable.
Oui.
Panama contre le Honduras, Honduras c'est dur, hein. Alors.
Tu sais quoi,
donc,
Myriam.
Donc, oui.
Je souhaite la victoire de ce soir.
Ce soir.
Faut pas compter sur les autres là pour
se
qualifier. Voilà. Tu gagnes ton match, tu es qualifié, et
exact.
Puis tu t'assois dans ton canapé pour voilà tranquille.
Et tu contrôles ton destin, t'as pas besoin des autres.
Voilà. C'est comme
alors,
ça.
Surprise de taille pour leur coach Herdman qui a offert une surprise pour les Montréalais. Hein.
Oui.
Il a sélectionné le jeune Ismaël Koné, l'Ivoirien, Fulgence, l'Ivoirien de 19 ans.
Il est d'origine ivoirienne.
Oui, le jeune Koné. Alors, il l'a sélectionné pour jouer les 4 matchs. Il va jouer quelques minutes, sûrement à ce qui paraît, pour qu'il choisisse le Canada et pas la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire aimerait ça aussi qu'ils viennent jouer pour eux. Alors,
ah non, s'il joue pour le Canada, il ne pourra plus jouer pour la Côte d'Ivoire.
Voilà,
ça, c'est
exact.
Fini, là. Voilà,
c'est
voilà,
pour confirmer sa place. On le tient, là.
Oui. Oui.
Donc, ce soir, 22h. Maintenant, je passe rapidement pour les autres pays. Sachez que le Japon s'est qualifié pour le Mondial en battant l'Australie 2-0 à Sydney aujourd'hui.
Oui.
Et donc, ça a automatiquement qualifié l'Arabie Saoudite car elle était deuxième. Elle passe. Donc, l'Italie qui joue sa vie en ce moment pour faire les tirs de barrage, elle joue contre la Macédoine du Nord, figure-toi. Et donc, c'est 0-0 en ce moment.
En ce moment-là, ça joue là.
En ce moment, ça joue, lol, Fulgence, j'ai regardé un peu.
Ok.
Et se joue en ce moment, lol, le Portugal contre la Turquie. Et le Portugal mène 2-0 en ce moment contre la Turquie. C'est incroyable parce que la Turquie, quand même, a toujours fait partie, et le Portugal, du Mondial, hein.
Alors, oui, mais bon, ça fait
peut-être... Ça se bataille en ce moment.
Voilà, c'est quand les joueurs ne jouent pas souvent ensemble, c'est pas évident, hein.
Oui, et l'Italie, sachez qu'elle n'a pas été qualifiée hein, en 2018. Elle a manqué sa qualification mondiale. Il dit que ça sera une catastrophe traumatisante si elle ne va pas 2 années de suite.
La squadra azzurra.
Hey, les Italiens qui sont quand même champions d'Europe, rappelons-le.
Ah ouais, ouais, champions d'Europe, oui.
Et ça serait spécial de ne pas les voir au mondial. Alors, voilà, ça c'est pour donc, le soccer. Soyez aux aguets, l'Afrique aussi joue cette semaine, sachez-le. Le Maroc rencontre la RDC, l'Égypte joue aussi. Et d'ailleurs, les Marocains ont été accueillis spécialement à RDC, je vous raconterai ça une autre fois.
Oui, oui.
Final, ils ont fait une plainte d'ailleurs hein, à la FIFA. On a oublié d'aller les chercher à l'aéroport. On a bloqué les bus qui ont fait des pannes sur la route. L'hôtel ne les a pas reçus. Ils ont été envahis, ils ont eu peur. Ils ont été retirés du stade d'entraînement ce matin parce que les Congolais sont arrivés pour leur faire peur. Ils ont frappé sur les autobus. Alors, il y a des plaintes en ce moment vers la FIFA.
Quelle est cette attitude-là?
Ouais, c'est vraiment pas fair play.
Ils savent pas ce que c'est que le fair play?
Exact. Ah. Alors, c'est pas drôle. Donc, il y a une plainte qui est déposée aujourd'hui à la FIFA.
C'est normal, c'est normal.
Je vous finis ça rapidement. J'ai un peu dépassé aujourd'hui, c'est pas grave.
Ouais.
Alors, l'Euro 2028, sachez que la Russie, parce que c'est le moment de déposer sa candidature, la Russie, même bannie du sport mondial, et bien elle s'est pourtant jetée hier soir dans la course pour organiser l'Euro de football 2028 aux côtés de la Turquie, du Royaume-Uni et de l'Alliance Royaume-Uni-Irlande et de l'Italie.
Tu sais quoi? Le rêve est permis. Hein. Mais est-ce qu'il va se réaliser?
Voilà.
Les
gens sont furieux. Hein. Alors l'UEFA a précisé la désignation du pays hôte des deux compétitions aura lieu en septembre. Elle souligne que la Fédération russe de football, tu sais, eux, ils sont éliminés, l'équipe de toute compétition, du mondial, de tout ça. Mais la Fédération russe, elle, n'a pas été suspendue. Donc, elle a le droit, légalement, de déposer sa candidature pour 2028. Tu comprends? Donc, c'est pour ça qu'elle l'a fait. Alors, le monde attend une réponse de la FIFA et de l'UEFA pour
cette candidature. Ah non, ils vont pas, ils vont les écarter. Ouais, c'est clair.
Rappelons que l'Euro 2024 a été attribué à l'Allemagne depuis 2018, on le sait ça. Voilà, je finis sur cette note.
Merci beaucoup Myriam, on se retrouve la semaine prochaine.
Et attention, n'oubliez pas de soutenir le Canada ce soir.
Ah oui, à 22h. Merci Myriam. Allez. Et bonne soirée.
Bye, bonne soirée.
Bye.
Il y a toujours une femme qu'on aurait voulu être. Personnage de Dali qui rêve à la fenêtre. Son dos est triste et beau, revêtu des peut-être que tu n'as su écrire dans aucune de tes. Et toujours un bateau qui nous regarde en coin, parangon fatigué d'un rêve au creux des reins, qui apparaît bientôt. Demain c'est sûr, demain, demain par le hublot, c'est sûr. T'as déjà vécu les trois quarts de ta vie, peut-être juste la moitié, ou le début à peine. Qu'est-ce que tu en as fait et à quoi t'as servi? Combien de fois et à qui as-tu dit? Toujours une cage sans vue et sans balcon, et toujours un cordage tressé de fleurs sans nom qu'on lance dans les naufrages ou qui pend au plafond. Et ça prend du courage de le saisir. Non, t'as peut-être déjà vécu les trois quarts de ta vie, peut-être juste la moitié, ou le début à peine. Qu'est-ce que tu en as fait et à quoi t'as servi? T'as déjà vécu les trois quarts de ta vie, peut-être juste la moitié, ou le début à peine. Qu'est-ce que tu en as fait et à quoi t'as servi? Combien de fois et à qui as-tu dit?
Marion Cousino, combien de fois et à qui? C'est une pièce de son nouvel album dont le lancement aura lieu le mercredi 13 avril vers Bouteille 2112 Montréal, Mont-Royal Est. Restez à l'écoute après la petite pause. Voilà, je vais recevoir l'instigatrice de Daily Talang, la 4e édition, qui va nous parler de la finale du concours d'éloquence Daily Talang 4e édition. Allez, à tout de suite après la petite pause publicitaire et la première pièce musicale.
Kete ni gani mbandu Yete na piango Daloko na tinge landon Ingende na landan me pourquoi dimatin dimatin lando de pourquoi balto pourquoi dimatin le bal sin de bat nyendo lando
lando
di pia lenden onina
lando
pati pa manna bando ki
lando
si bito lambo na
connecter Diego.
Salut tout le monde, ça va bien?
À ses collègues.
Hey! Allô, le petit nouveau.
Et ses collègues, à Diego.
C'est parce que ça fait 7 mois que j'ai commencé.
Il y a la STM. La meilleure façon de se reconnecter.
7-18 avec Fulgence Blas.
If you give a little more than you take, and if you try to fix more than you break, if you're the kind who takes the time to help a stranger in the rain, there's a place for people like you. If you stand up for those down on their knees and lend a voice to those who cannot speak, if you shine a little light, give sight to the ones who've lost their way, there's a place for people like you. I've heard up there the streets are made of gold, and when you get there, there's a hand to hold. I believe when your day's down here through, there's a place up there for people like you. If you walk around with your heart on your sleeve, and if you're trying to be the change you want.
gonna see. If you lay down your life for love so someone could be saved, there's a place for people like you.
I've heard up there the streets are made of gold, and when you get there, there's a hand to hold. I believe when your days down here are through, there's a place up there for people like you.
Morgan, People Like You, wow. Voilà, notre invité déjà au bout du fil, Monique Cormier, qui est professeure titulaire du département de linguistique et de traduction à l'Université de Montréal et l'instigatrice du concours d'éloquence d'Élite à langue. On va parler de la finale de la 4e édition du concours d'éloquence d'Élite à langue. J'aime ça. Voilà, alors ceux qui savent pas, c'est la 4e édition bien sûr et... Je pense bien que les finalistes seront prêts. Ça va se passer le lundi 28. Si je me trompe pas, elle va me corriger. Si je me suis trompé, elle va me corriger. Si je me trompe pas, elle va me corriger. Bonjour Monique Cormier.
Bonjour.
Merci d'avoir eu le temps de venir nous parler de cette finale de la 4e édition de votre événement. Je veux dire, parce que vous êtes l'instigatrice.
Oui, oui, oui. Ben, d'abord, c'est un grand plaisir. Merci de votre invitation. Je suis vraiment... toujours très heureuse de parler de ce concours d'éloquence qui me tient beaucoup à cœur.
Oui. Alors, pour ceux qui nous écoutent, là, qu'est-ce que c'est que l'éloquence?
Ben, l'éloquence, au fond, c'est être en mesure de plaire, c'est émouvoir, c'est convaincre par la force de la parole.
Oui.
La prise de parole est très, très importante de nos jours.
Oui.
La parole sert à entrer en communication avec les autres, sert à se faire connaître, faire à convaincre. Donc, c'est un outil très, très important.
Oui.
Et malheureusement, on n'y accorde pas beaucoup d'importance dans les formations en général. Et alors, ce qui m'a incité,
mais c'est,
par exemple...
C'est dû à quoi? C'est dû à quoi? Pourquoi on accorde très peu d'importance dans les formations?
Ben, je ne pense pas que ce soit... Bon, d'abord, c'est peut-être une question culturelle. Je vous dirais, de mon point de vue, qu'au Québec... on ne s'est pas beaucoup préoccupé, on n'a pas beaucoup valorisé la parole, la prise de parole. Mais si vous regardez dans d'autres pays, par exemple en France, la parole me paraît beaucoup plus valorisée.
Oui.
Et les concours d'éloquence existent en France, c'est extrêmement populaire.
Oui, oui,
bon,
oui.
Je remarque également que dans certains pays d'Afrique aussi,
oui, ça existe aussi.
L'éloquence,
oui.
C'est important.
Mmh.
Donc, c'est une compétence, il me semble, qu'il faudrait développer.
Oui.
Et de façon ludique aussi, hein. Puis le concours, c'est un peu cette façon d'appréhender la parole, la voix, mais de façon ludique.
Oui, oui, oui. Alors, quand vous avez commencé, est-ce que vous avez pensé que les étudiants allaient s'intéresser à ça? Vous avez dit, OK, ben, je me lance. Bon, ben, s'ils veulent, je fais avec. Ou bien s'ils ne veulent pas, bon, ben, on passe à autre chose, quoi.
Oui, en fait, vous avez tout à fait raison. Oui. Je vais vous dire que l'idée, je l'ai eue d'abord en 2017.
Oui.
Et justement, je regardais un reportage sur TV5, et c'était un reportage sur le concours d'éloquence Eloquentia.
Oui.
C'est un concours très, très populaire en France,
oui,
qui
oui.
avait beaucoup de succès. Et je m'étais dit, mais c'est extraordinaire. Et ça m'a rappelé à ce moment-là mes années d'études à Paris, parce que j'ai fait mon doctorat à Paris.
Oui.
Et arrivant du Québec à l'époque, je trouvais que j'étais très peu préparée à prendre la parole. J'étais relativement timide également et je me rendais compte que mes camarades, en fait, qui étaient étudiants et étudiantes avec moi, notamment les Français, étaient beaucoup plus à l'aise.
Oui.
Alors, j'ai trouvé ça difficile et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je ne créerais pas un concours? Mais comme vous dites, en fait, je ne savais absolument pas si ça allait fonctionner.
Oui.
Alors, je me suis dit, je vais quand même faire une demande de financement parce que, évidemment, c'est de l'organisation, bon, on fait une finale, etc., etc. Mm. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que l'Office québécois de la langue française a cru en mon projet.
Oui.
Et donc m'a offert un soutien financier dès le début, dès la première édition, donc en 2018-2019. Vous me posiez la question, est-ce que les étudiants, bon, finalement, s'y intéressaient?
Mm.
Ben, je dois vous dire, c'est sûr qu'au début, ça a été beaucoup plus difficile la première année parce oui. qu'il fallait faire connaître le concours.
Oui.
Je précise que la première année, c'était seulement à l'Université de Montréal. Donc, au début, je n'avais pas du tout l'idée d'en faire un concours à l'échelle du Québec.
Oui.
C'était
Mais
un
concours. C'est normal, il fallait démarrer quelque part à l'Université de Montréal. Oui. Où est-ce que vous êtes vous-même?
Oui,
voilà.
J'allais démarrer, mais au-delà de ça, je n'avais pas l'idée d'élargir le concours à d'autres universités.
C'est elles qui sont venues frapper à votre porte?
Non, mais en fait, c'est que ça... Non, j'ai quand même... Modestement, je dirais que non.
Oui.
Mais je vous dirais que j'ai eu l'idée d'abord avec l'Université de Montréal, puis ça a bien fonctionné.
Oui.
Et il est vrai qu'un collègue de l'Université du Québec à Rimouski qui a assisté à la première édition
oui.
a trouvé vraiment la première finale extraordinaire.
Mm-hmm.
Alors je lui ai demandé, je dis, mais est-ce que ton université, alors c'était l'Université du Québec à Rimouski, je dis, est-ce que ton université participerait? Alors, c'est comme ça que, en fait, l'année dernière, l'Université du Québec à Rimouski a été la première université à se joindre à nous pour le concours. C'était
oui.
un projet pilote.
Oui.
On voulait voir si ça allait fonctionner parce que, bon, quand même, c'est déjà difficile au sein d'une seule université. Donc,
oui.
travailler avec plus d'une université, on avait certains défis. Mm. Mais ça a très, très bien fonctionné. La collaboration était excellente.
Oui.
De là, l'idée, cette année, d'ouvrir à de nouvelles universités.
Oui.
Et donc, cette année, l'Université Concordia à Montréal s'est jointe à nous. L'Université de Sherbrooke, qui est l'Université du Québec à Chicoutimi.
Oui.
En plus de Rimouski, bien sûr, qui est encore là cette année.
On espère que, l'année,
j'espère
prochaine,
que l'année prochaine...
Il y a d'autres qui vont venir frapper à votre porte.
Voilà, j'aimerais bien que l'année prochaine... on puisse aller chercher peut-être trois autres universités parce que, bon, il faut quand même y aller par étapes si on veut que le concours fonctionne bien.
Oh oui, il faut aller par étapes. Il ne faut pas qu'il y ait,
ouais.
disons, tout un quartier et puis, bon, ben, on n'arrive pas vraiment à cerner l'organisation, quoi. Alors,
ouais.
ces étudiants et étudiantes-là qui sont actuellement en finale, comment ça se fait l'inscription d'abord? Ils vous envoient des textes ou bien, je ne sais pas, au jury?
Alors,
ou bien...
le processus, je vous dirais,
oui.
Se déroule sur une année universitaire.
Oui.
Alors, en gros, dès la fin septembre, nous, on laisse passer la rentrée parce qu'à la rentrée, les étudiants sont très sollicités, il y a beaucoup de messages et les invités à participer au concours risquent de ne pas être entendus.
Oui.
Donc, nous laissons passer la rentrée et à la fin de septembre, on commence à annoncer le concours.
Oui.
Pour participer, les étudiants doivent choisir une expression française. Bon,
oh.
Par exemple, nager entre deux eaux.
Oui.
Et là, je vous donne quelques exemples cette année d'expressions qui ont été choisies par nos finalistes.
Oui.
Découvrir le poteau rose.
Oui, ne pas avoir froid aux yeux. Ne pas avoir froid aux yeux.
Voilà.
Oui.
Alors, on a mettre au pied du mur. ne pas avoir froid aux yeux.
Avoir le cœur sur la main.
Bien, voilà, c'est ça, se tirer une douche.
Oui.
Alors, ils choisissent une expression française.
Oui.
Ils doivent en expliquer l'origine. Donc, il y a une recherche ici qui doit être faite.
Oui.
Et ce qui est très intéressant, de mon point de vue, c'est qu'ils doivent établir un lien entre l'expression qui est choisie et un enjeu social. C'est-à-dire qu'ils doivent expliquer en quoi l'expression s'applique à la société actuelle.
Wow.
Et ça, c'est particulièrement intéressant parce que on voit les préoccupations des jeunes, les préoccupations, par exemple, en matière de diversité, d'inclusion,
oui.
les préoccupations en matière d'environnement.
Oui.
Donc, c'est un reflet extraordinaire des préoccupations de nos jeunes. Donc, moi, ça, déjà, ça a été une découverte pour moi. C'est vraiment quelque chose de très, 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 très beau, je trouve.
Merci.
Bon, alors, si on revient, donc, au mois de septembre, ils sont sollicités. Ils doivent préparer eux-mêmes une vidéo de 5 minutes
ouais.
sur, justement, une expression française, comme je l'ai expliqué.
De leur choix.
Ils doivent Voilà, ils doivent nous la faire parvenir avant la mi-novembre à peu près.
Ah. Attendez, on va faire une petite pause musicale.
Oui, d'accord.
Et puis on revient pour aller à la suite. On va parler de ces différents. Je vois les finalistes, j'ai les photos en face de moi ici.
Oui, oui, oui.
Allez, on va écouter Yao, un jeune slammer, poète, écrivain. Il est à Ottawa. Il est accompagné au piano par Marianne Dumas et au violon avec Olivier Philippe Auguste Miroir.
Aujourd'hui, c'est un atelier d'écriture, mais c'est un atelier d'écriture créative, celle qui permet de s'exprimer, celle qui permet de faire passer un message, celle qui permet tout simplement de laisser libre cours à notre imagination, à notre émotion, à nos sentiments. Et je vais vous guider dans l'atelier pour être capable de faire ça en vous montrant un exercice pour le faire. Nous allons écrire.
Je tiens en équilibre sur les aiguilles fragiles de l'amour et de l'amitié. Un bref instant d'oubli de pure sérénité, sans le regard de l'étranger comme une horloge sous moi qui vibre. Le temps m'a oublié. Dans son marasme routinier, comme la montre au mur fixé, une rare instance de liberté, d'un esprit vif, cicatrisé. Surprenante épilepsie d'un quotidien rempli d'embûches, mon mont Everest, je le conquis. À chaque obstacle, je trébuche. À chaque envie de faire l'autruche. À chaque remarque de simple passant que l'handicap seulement effleure sans qu'ils en sentent toute la douleur. Ou encore même juste ce matin, fallait déjà que je sorte du lit. Mes plaies fantômes, oui, m'impatientent. L'humilité face à la vie. J'ai beau me dire que c'est injuste, mais l'empathie, je l'ai comprise. Un casse-tête de solutions, comment guérir est la question. Mais le plus dur n'est pas la cure, c'est vos manquements et perceptions. J'ai le moral bien acéré, déterminé de triompher. J'ai mis du temps à accepter, à refuser d'être isolé. À m'accepter comme amputé, à l'accepter comme aveuglé. À voir le jeune paralysé dans son fauteuil, les yeux briller. Des brouillardises est désormais le mot qui prime, tandis que d'autres dans l'ignorance nous sous-estiment. La société s'est adaptée, je le consens. On parle d'accessibilité, on fait des lois, j'en suis conscient. Mais le défi est dans le fond, pas dans la forme. Des rampes d'accès nous bâtissons, mais est-ce le cœur que l'on transforme? Quand pour l'aider vous hésitez, vous le voyez mais le fuyez, est-ce par pitié ou juste par simple méchanceté? Mon entourage a comme mission le rôle du phare, quand je navigue l'incertitude, le désespoir qui m'accapare. Dès la naissance, on parle d'une vie tracée, une évidence. En grandissant, notre apparence est altérée. Nouveau contrat, faut s'adapter. Naturellement, chimiquement, ou peut-être médicalement. Si la détresse a sa violence, j'ai du courage dans mon silence, de l'espoir dans ton absence. Juste un bémol sur le fil de mon existence. Toujours présent lorsqu'invisible, que tu fuis mon blanc des yeux, ou que tu juges que mon besoin soit dispendieux, ou même crédible. En vérité, j'ai de la chance. Toutes choses arrivent pour une raison. J'incarne la persévérance à mes petits-enfants, l'admiration. Vulnérable, mais résilient. Oui, j'aime la vie. Dans mes douleurs, la noirceur.
Il y a au miroir, avec au piano Marianne Dumas et au violon Olivier Philippe Auguste. Et mon invité est toujours avec moi. On n'a pas fini, on va parler de tout. C'est quoi l'éloquence, le concours d'éloquence? Monique Cormier, qui est professeure titulaire du département de linguistique et de traduction à l'Université de Montréal et l'instigatrice du concours d'éloquence d'élite à langue. C'est la 4e édition et la finale aura lieu ce lundi 28 mars. Voilà, à partir de 16h, si je ne me trompe pas, c'est la Bibliothèque nationale. Allô?
Oui.
Vous êtes toujours?
Oui. La finale aura lieu à la Bibliothèque nationale pour les finalistes,
oui.
Et pour le grand public. Le grand public peut assister, peut suivre la finale en direct.
En direct.
Il suffit, alors c'est gratuit, bien évidemment.
Oui.
Il suffit de s'inscrire sur le site delitalangue.ca.
Oui.
Alors il suffit de taper delitalangue et puis on arrive directement au site.
Oui.
Et vraiment en page d'accueil. On peut s'inscrire et c'est gratuit, donc effectivement.
De son salon. Oui, on n'a pas besoin de se déplacer.
Non.
Voilà. Pandémie oblige. Alors, vous étiez en train de parler de la vidéo de 5 minutes que vous recevez et autres. Alors,
oui.
Allez-y, je vous laisse partir, je vous laisse continuer.
Oui. Ouais. Alors, donc, on reçoit les vidéos et il y a un comité qui est formé dans chacune des universités. Donc, chaque université a la responsabilité de choisir ses finalistes. Et alors, chaque université a choisi, normalement peut aller jusqu'à 10 finalistes.
Oui.
Bon, évidemment, à l'Université de Montréal, nous avons plus de finalistes parce que le concours existe depuis plus longtemps.
Oui.
Il est davantage connu, donc c'est normal. Il faut dire aussi que le bassin d'étudiants est plus grand, par exemple, que dans des universités qui sont plus petites. Alors, on essaie vraiment de s'adapter. Les comités à l'intérieur de chacune des universités vont faire un choix, vont sélectionner donc les concurrents, un certain nombre de concurrents.
Oui.
Et ces étudiants-là et ces étudiantes vont suivre des formations pendant l'hiver. Encore une fois, les formations sont laissées à la discrétion de chacune des universités,
oui.
De façon que le processus ne soit pas trop complexe pour chacune des universités.
Okay.
Je vous donne des exemples. Dans le cas, par exemple, de l'Université de Montréal,
oui.
Les étudiants ont suivi des formations sur l'argumentation du texte, sur la pose de voix, sur la gestuelle, sur la gestion du stress. Donc, en fait, des formations tous les samedis matins, dans le cas de l'Université de Montréal.
Oui.
Les étudiants se réunissaient tous les samedis matins pour recevoir une formation. Et donc, ces formations, il y a 10 semaines, pendant 10 semaines, le samedi, ils ont des formations et finalement, ils reprennent l'expression, la plupart du temps, ils vont reprendre l'expression qu'ils avaient au départ et ils vont améliorer leur texte, ils vont améliorer leurs prestations pour arriver à la finale qui a lieu pendant le mois de la francophonie.
Wow!
Oui, oui.
Voilà, c'est une manière de, disons, je sais qu'on est entouré ici de millions d'anglophones, c'est une manière de permettre, parce que l'éloquence, il faut le dire, hein, c'est un art, il faut pas se voiler la face, c'est un art.
Oui.
Il y a des gens qui...
Oui, tout...
Oui, allez-y, oui. Allez-y.
Mais oui, c'est un art, mais je pense quand même que... Tout le monde peut y trouver son compte, améliorer ses compétences.
C'est ça.
Et pour moi, il y a un volet aussi qui est important au départ, c'était la valorisation de la langue française.
Voilà.
Et je m'explique là-dessus, j'ai toujours pensé, et je continue de penser encore aujourd'hui, que l'appareil législatif, c'est très important. Par exemple, la loi 101, bien sûr que c'est important, mais... Lorsqu'on dit que les jeunes passent à l'anglais où il faut surtout se dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on aille chercher l'adhésion des jeunes à la langue française?
Oui.
Et je me dis, ben, c'est beaucoup plus la valorisation de la langue française. Mmh. Alors, la loi, c'est important.
Oui.
Il faut qu'il y ait des balises, ça, je suis d'accord, mais il faut aussi être en mode que j'appelle offensif et non pas défensif.
Oui.
Il faut montrer comment la langue française peut être belle, comment on peut s'en servir.
Oh, c'est une belle langue. Et... c'est pas moi qui vais dire le contraire, en tout cas.
Ben voilà, c'est ça. Alors, c'est aussi un objectif sous-jacent, je dirais, de ce concours d'éloquence.
Oui. Alors, comment vous formez le jury de chaque université, ou bien le jury pour la finale, là? Comment vous avez pu convaincre Marie-France Bazot et autres, tous ces membres du jury,
bon,
là?
Il faut dire que, dans le cas de Marie-France Bazot, elle est avec nous depuis le tout début.
Depuis la première édition.
Oui, depuis la première édition. Mmh. Et bon, je pense que ça lui a plu dès le départ. Elle était membre du jury dès la première édition et puis elle continue de s'intéresser beaucoup au concours. Le concours commence à être de plus en plus connu,
oui,
je pense. Et pour moi, c'est important aussi d'avoir un jury prestigieux. Moi, j'appelle ça un jury d'exception.
Ah oui, ah oui.
C'est vraiment un jury d'exception. Et je pense que c'est important aussi pour les jeunes de voir que, bon, ce sont des personnes provenant de différents milieux,
oui,
qui ont eu des carrières qui se sont engagées de diverses façons au sein de la société.
Oui.
Donc, écoutez, je dois dire que je n'ai pas de difficulté à recruter
des personnes
pour,
oui,
faire partie du jury. J'ai toujours un oui enthousiaste.
Mais merci, Marie-France Bazot, oui, Lynn Beauchamp, Javan Hamel Turton, Denis Hamel et Michel, oui, Robitaille. Alors, pour la dernière minute qui nous reste, quel est le message que vous lancez aux étudiants qui nous écoutent et qui aimeraient bien prendre part l'année prochaine?
Ben, écoutez, il faut se lancer, il faut croire en soi, il faut penser qu'on va réussir. Je pense que c'est le message. Moi, j'ai vu vraiment des étudiants et des étudiantes transformés entre la première vidéo qui a été soumise et la finale, l'amélioration, en fait, je dirais, c'est absolument incroyable et ça vaut la peine de croire en soi, mmh, et aussi de travailler avec d'autres jeunes qui ont un objectif commun de s'améliorer, d'arriver à maîtriser la prise de parole. Et je pense qu'il faut se lancer. Moi, je dirais, il faut absolument se lancer. Il faut surveiller dans les universités en général. Donc, c'est, comme je vous disais, fin septembre, c'est à ce moment-là que l'information commence à circuler. Mmh. L'appel à concurrents commence à circuler pour participer à l'édition de l'année anniversaire en cours.
Merci beaucoup, Monique Cormier, professeure titulaire du département de linguistique et des traditions à l'Université de Montréal et l'instigatrice du concours d'éloquence d'élite à langue. Merci et je vous souhaite bonne finale le lundi pour la 4e édition.
Merci beaucoup et puis, merci infiniment de votre invitation.
Avec plaisir. Merci. Bonne soirée à vous et à la prochaine.
À la prochaine. Au revoir.
Au revoir.
Je prends mon Colorado, faire une coupe de kilomètres vers le nord. Des lignes bien stackées dans boîte, faire le vide pis retrouver les vieux chums au camp. Retrouver mes vieilles bottes, enfin me vider la tête pis sortir de là. Ça va prendre un coup et puis ben fort pour oublier tous nos bonnes brosses. Ça va prendre un feu pis des guitares pour brûler tout ce qui nous attache. Jamais donné grand chose. Fait que sans le fond et sans le whisky, puis ça me, ça va prendre plus qu'un verre. Ça va prendre plus qu'un verre. Tu tournes le fer dans le plaid quand tu te pointes une barre du feu avec tes cheveux blonds.
quand tu me regardes, c'est l'enfer. J'aurais juste le goût de te reprendre pour un soir. Mais tu le sais bien comme moi, demain matin, on va reprendre nos vieilles habitudes.
Pour reconnecter Simon et Pierre-Luc à...
Deux relish moutarde pis de liqueur.
Et surtout, à ça.
Yeah! Voyons, j'ai plus de voix.
Il y a la STM. La meilleure façon de se reconnecter.